Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la clinique Riquin. Jules est mis sur un brancard et on le mène dans la salle d'opération où tout est prêt. Il y a Riquin et toute son équipe qui sont complètement habillés et prêts à opérer. Ils ouvrent la tête de Jules, le lavent bien et commencent l'opération. On va ouvrir le crâne, mettre une mini puce dans son cerveau qui reçoit les informations, que reçoit le cerveau pour la voix et le son. Et cette puce enverra les informations par radio à un récepteur audio-vidéo qui sera au laboratoire. Une fois que la boîte crânienne est ouverte, on dépose à l'endroit du cerveau cette petite puce qui recevra les informations grâce aux nerfs qui apportent les informations au cerveau. Ce qui fait qu'elle le reçoit avant que le cerveau le reçoive parce qu'elle est en amont. Vous m'avez suivi, je vais vous expliquer tout autrement. Les informations de la vue et du son passent dans des tuyaux, comme la télé câblée. On met dessus ce tuyau une puce qui est sensible aux fréquences électriques qui passent dans les tuyaux et qui sont des informations codées qui vont être décodées dans le cerveau. La puce va connecter ces informations pour les envoyer aux centrales radio et les centrales dans un appareil qui va faire le même travail que le cerveau. Il décode les fréquences électriques pour transformer en image et en son. Voilà, c'est tout simple. Une fois que la puce est déposée et maintenue au cerveau, par de la peau qui a été greffée sur le cerveau, qui maintient la puce bien en place sur le cerveau, on referme la boîte crânienne, on lui met bien la peau en place, agrafée, on tapote un peu à cause du sang, et voilà, la chose est faite. Alors, comme la puce est en amont, elle recevra les informations avant que le cerveau ne les reçoive. Elle enverra ces informations au laboratoire qui déconnectera les signaux en son et en image. Jules dans une chambre avec tuyau pour le sang et tout. Pendant qu'il dort, on essaye dans une autre pièce de voir si les puces marchent. On parle devant lui pour voir si dans l'autre pièce on entend si l'appareil décode. Oui, le son est bon. Pour les yeux, ce n'est que du noir pour le moment, bien sûr, parce qu'il dort. Pour les rêves, on aurait pu voir, il aurait fallu se brancher une puce dans un autre endroit du cerveau. C'est tout à fait possible. Si vous voulez qu'on essaye, pour voir, je suis prêt à vous opérer. Riquin est dans son bureau avec Danfort et lui dit « Tout s'est très bien passé. » Danfort lui demande « Il ne va rien ressentir ?»« Non, c'est un dolore et tellement petit. Cette opération pourrait se faire à beaucoup de gens, sur beaucoup de gens. » Danfort lui dit « Je vais prévenir sa femme. Elle va sûrement venir. Eh bien, qu'elle vienne. » Et Danfort fait le numéro à la femme de Jules.
Allô, je suis bien chez Monsieur Tennès ?
Oui, monsieur.
Bonjour, madame. J'aimerais parler à sa femme, s'il vous plaît.
Je vais voir monsieur si elle est là. Qui dois-je annoncer ?
Monsieur Danfort. C'est au sujet de son mari.
Bien, je vais voir.
Il attend.
Bonjour, monsieur. Je suis madame Tennès.
Bonjour, madame. Je vous téléphone, c'est pour vous dire que malheureusement votre mari a un accident de circulation.
Oh mon Dieu, est-ce grave ?
Non, madame. Il a été renversé par une voiture, mais rien de grave. Il est dans un de nos établissements.
Où est-ce ?
C'est la clinique Jeune Toux. L'adresse est...
Elle va dire...
Oh, je connais. Mais ce doit être une mise en scène. Est-ce que je peux aller le voir ?
Oui, bien sûr. Mais il a eu une légère opération. Il dort.
Une opération ? Mon Dieu, mais où ?
Ils vous le diront, madame.
Bien, j'arrive.
Une heure plus tard, elle est à la clinique. Elle va à l'accueil.
Je suis madame Tennès.
Monsieur Riquin aimerait vous parler. Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
Elle le mène au bureau de Riquin. Nous pouvons l'appeler Riquin. Après 2650 pages, ça fait de l'intimité.
À la porte. Entre. Ressort.
Entrez, madame.
Elle entre. Monsieur Riquin se lève.
Veuillez vous asseoir, madame.
Elle va s'asseoir.
Elle est assise en face du bureau.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Votre mari a eu un petit accident et a été amené ici. Il a reçu un coup sur la tête et nous avons été obligés de l'opérer.
Comment va-t-il ?
Très bien. Ne vous faites pas de soucis. Une grosse bosse. Mais nous avons été obligés de l'opérer et nous serons obligés aussi de le garder chez nous. Quelques jours.
Elle lui dit, tant mieux, comme cela il se restera sage. Puis-je le voir ?
Bien sûr, madame, je vais vous mener.
Veuillez me suivre. Et il le met vers son mari. Entrez, madame. Son mari dort encore.
soirée, Jules se réveille. Un homme, qui est dans la pièce à côté, suit sur un écran tout ce qu'il voit et entend. Les ondes radio que transmet la puce est décodée par un ordinateur qui envoie les informations à la vidéo ou radio. L'ordinateur transforme les pulsions que reçoit la puce et qu'elle transforme avant d'y envoyer en code 01 pour l'ordinateur. Les pulsions sont celles des nerfs informatifs que reçoit le cerveau. L'homme entend et voit tout ce qu'entend et voit Jules, et même avant lui, quelques dixièmes ou millièmes de secondes, parce que les informations sont reçues en amont du cerveau. Il prévient Riquin qu'il est réveillé. Riquin lui demande « Comment est la tension ?»«
Très bien, monsieur. Bien. Je vais aller le voir. »
Il sort de son bureau. Pour aller dans la chambre de l'opéré.
Près de lui, il lui dit « Bonjour, monsieur Tonnes. Comment allez-vous ?»
Je suis un peu dans le cirage et j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête.
C'est normal, ça va passer. Vous avez eu un petit accident de la circulation. Vous vous souvenez?
Non, je ne vois pas.
C'est normal, c'est le choc. Ne vous faites pas de soucis. On vous a fait une petite opération sur le crâne parce que vous avez eu une petite blessure. Mais ce n'est rien du tout. Quelques points de soudure, une grosse bosse. Malheureusement, on a été obligé, c'est de vous raser les cheveux. Mais ça repoussera très vite. Et puis, cela fait très viril. Vous êtes du Jockey Club, je crois.
Oui. Comment vous le savez?
Parce que je le suis moi aussi. Je m'appelle Riquin, membre de l'Institut, directeur de cette clinique jeune tout à la pointe du progrès. L'hôpital américain, c'est fini à côté de nous. Ils ne font pas la côte. La reine d'Angleterre est venue se faire opérer de l'appendicite chez nous il y a 2 mois de ça.
Je lui demande « Mais pourquoi suis-je ici ?»
Parce que la personne qui vous a accroché légèrement est lui aussi du Jockey Club. Et comme il vous a reconnu, il n'a pas voulu que vous alliez dans un hôpital quelconque au milieu de je ne sais qui. Alors il nous a tout de suite appelé pour que l'on vienne vous prendre. Et on vous a tout de suite opéré. Tandis que dans un hôpital, vous seriez encore à attendre.
Quelle est cette aimable personne ?
C'est Monsieur Diap Gallien.
Je ne vois pas qui c'est.
Voyons, l'homme le plus puissant du monde, le président du groupe Jeune Tout Pontois.
Ah oui, j'aurais jamais cru qu'une personnalité comme celle-là puisse me connaître.
Gallien lui dit, bien, alors reposez-vous et tout ira bien. Et deux jours après, il est sorti de l'hôpital. Sa femme est venue le chercher. Il a encore un bandeau à la tête, mais se sent tout à fait bien. Riquin lui a dit qu'il pourrait reprendre ses activités comme si de rien n'était. Et le lendemain, il reprend sa vie. Il est surveillé 24 heures sur 24. Et s'il n'y a personne, des magnétos enregistrent tout ce qu'il voit et entend. Pour le moment, rien que des banalités. Une fois pourtant, le surveillant a eu un grand frisson, car il est allé rejoindre sa femme pour faire son devoir conjugal. C'était comme si on y était. Il voyait tout, même sa stricte intimité. Une fois, le surveillant dit « Heureusement qu'il n'y a pas les odeurs !» Les jours passent, rien de spécial, sauf que sa femme bouge beaucoup et peu souvent à la maison. Une nuit, Jules est réveillé par des bruits bizarres. Qu'est-ce que ça peut être? Mon Dieu! Il se soulève de son lit, éclaire la lampe de chevet et écoute bien. Cela provient de son bureau qui est à côté de sa chambre. Il se lève. Met sa robe de chambre. Descend de sa chambre. Il ouvre la porte de son bureau, éclaire, et là, il voit.
Mais qu'est-ce que vous faites?
Sa femme habillée d'une gabardine jaune, une lampe torche à la main, le coffre ouvert.
Qu'est-ce que vous faites?
Il va vers elle. Elle a à la main une serviette en cuir marron ouverte.
Peux-tu me dire ce que tu fais? Pourquoi prends-tu ces dossiers?
C'est pour éviter qu'elle te le prenne.
Qui?
Elle, je ne sais plus.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et où vas-tu mettre mes dossiers?
Les mettre en lieu sûr.
Où?
Où, il me l'a dit.
Qui?
Lui, je ne sais pas. Ne me pose pas constamment de questions. Laisse-moi faire. Je sais ce que j'ai à faire.
Elle ferme la serviette. Il lui dit,
tu vas me laisser ce dossier ici.
Elle lui dit, non, j'ai reçu l'ordre de le faire. Je le ferai.
Comprends-le. C'est pour ton bien, mon chéri.
Elle veut te prendre tes dossiers et les donner à un homme qui les vendra. Je veux l'empêcher de le faire.
Jules Furieux lui dit, parle autrement. Explique-toi un peu mieux.
Non, je ne peux pas. C'est comme ça.
Elle fait un pas pour sortir de la pièce. Il lui barre le chemin.
Non, tu ne partiras pas.
Elle lui dit,
j'ai compris. Tu es de mèche avec elle. C'est elle que tu aimes. Et c'est pour ça que tu veux la laisser te prendre les dossiers. Mais je ne te laisserai pas faire. Laisse-moi partir.
Non.
Elle sort de sa poche un petit revolver.
Il est tombé à terre, sur le dos.
Passe devant lui, le retourne d'un coup de pied, voit qu'il est mort.
C'est de ta faute, bébé.
Et elle sort de la pièce.
avec la mallette.
Une fois dehors, elle va vers sa voiture.
Frappe à la porte d'André, qui lui ouvre. Elle ferme la porte, voilà la mallette. Il prend la mallette des mains, la jette à terre.
Il la prend dans ses bras et lui dit, « T'es une vraie femme. »
Elle n'a pas fait d'histoire ?
Non, elle voulait prendre les papiers pour m'empêcher que je les prenne. J'ai tué le mari.
Il sourit et lui dit, t'es une vraie femme, ma poule.
Il l'embrasse sur les lèvres et il tombe sur lui.
Elle a bien mérité une petite récompense, la poupée.
Ils sont sur le lit. Il lui dit,
moi je file avec les documents, les vendre à l'industriel.
Elle lui dit, et moi, je vais dormir un peu. Je suis crevée.
Il se lève, ramasse ses vêtements à terre, s'habille. Prend la mallette et va vers la sortie de la pièce.
Mais avant d'ouvrir la porte, il la regarde bien, nue, sur les draps, les cheveux défaits. Elle est vraiment très belle.
Thank you.
Elle se lève, s'habille,
elle a pris sa voiture. L'a garée dans le garage souterrain.
La porte s'ouvre toute seule. C'est Riquin qui lui a ouvert. Entrez, madame. Elle entre. Elle demande : qu'est-ce qui se passe ? Riquin lui dit : vous avez tué votre mari. On a tout vu.
Moi ? Mais je n'ai pas pu faire ça. Je n'ai pas pu faire une chose pareille.
Riquin lui dit : venez voir, madame. Et il l'amène au bureau de son mari. Là, il y a l'amphore et à terre, le cadavre de son mari.
Mon Dieu! Mais qui a pu faire ça? Il est vraiment mort?
Riquin lui dit : oui.
Mon Dieu, c'est terrible! Mon pauvre mari. Mais je suis sûr que c'est sa maîtresse.
Riquin lui dit : asseyez-vous, madame. Restons calmes. Nous sommes entre amis. Elle va s'asseoir dans un fauteuil.
Riquin lui dit : écoutez, vous avez demandé à monsieur Diappe de faire surveiller votre mari. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait d'une façon spéciale, madame. L'accident qu'a eu votre mari n'était pas un vrai accident. Il était provoqué. Elle lui dit :
je m'en doutais.
Il lui dit : c'était pour le faire venir dans nos cliniques et lui mettre dans son cerveau une puce qui nous permettait de le surveiller. Et nous avons assisté à sa mort. Nous avons vu que c'était vous qui l'aviez tué.
Elle lui dit : mais non, vous mentez, c'est impossible, c'est l'autre.
Riquin lui dit : moi je vous dis que c'est vous, et j'en ai la preuve. Elle se lève furieuse et lui dit :
si j'avais tué, je m'en serais souvenu, et pourquoi l'aurais-je fait ?
Riquin lui dit : bien, alors, si ce n'est pas vous, que faisiez-vous au moment du crime ? Elle réfléchit et lui dit :
je ne sais pas, comment voulez-vous que je le sache ?
Mais vous étiez bien quelque part ? Elle lui dit :
sûrement, oui.
Alors ?
Je ne vois pas.
Cela vous paraît pas bizarre de ne pas le savoir ?
Elle lui dit : attendez, vous m'annoncez la mort de mon mari, puis vous me posez des questions ? Et vous me dites que je l'ai tué ? Qu'il aurait un robot dans le cerveau ? Je ne sais plus, moi.
Il lui dit : si vous vous souvenez de rien, il doit y avoir quelque chose à résoudre. Vous allez venir avec moi et nous allons vous examiner.
Mais je ne suis pas folle.
Personne ne vous dit que vous êtes folle. Il faut vous examiner. Quelqu'un qui ne se souvient de rien, ce n'est pas normal. Venez. Elle lui demande :
et mon mari ?
Il lui dit : nous allons nous en occuper. Je suis médecin. J'ai écrit l'autorisation d'inhumer. Il a eu une crise cardiaque, trop de surmenage. La police vous demandera rien.
Vous voyez, vous pouvez nous faire confiance. Allez, venez. »
Elle soupire épuisée.
« Qu'est-ce que vous allez faire ?»«
Rien. Seulement, vous examinez et vous montrez la vidéo où vous avez tué votre mari. »«
Mais je ne l'ai pas tué !»«
Nous verrons bien. Venez. »«
Bien. »
Elle est sûre.
Dans une grande voiture. On la fait asseoir entre Riquin et Danfort. Danfort lui dit
« Je suis Danfort, l'homme de confiance de Monsieur Dapp. »
Elle lui demande
« Je me demande si j'ai bien eu raison de lui faire confiance. »
Et la voiture file jusqu'à la clinique.
À la clinique, Riquin dit
« Chambre 421 !»
La femme panique et lui dit
« Mais je veux pas être hospitalisée !»
Riquin lui dit « Mais non, c'est juste pour voir, pour pouvoir vous passer des tests, des examens. Allez !»
Une fois qu'ils sont dans la chambre 421, Riquin lui dit
« Vous allez tout d'abord voir la vidéo du crime de votre mari et vous me direz si vous en souvenez. »
On amène un téléviseur avec un magnétoscope.
On installe tout ça. Puis, tout le monde s'assoit sur des chaises.
Et Riquin met le magnétoscope en marche.
L'on voit dans le noir les bruits. Le mari qui se demande ce qui se passe, qui se lève. L'on voit ce que l'on voit et entend le mari avec les yeux du mari et les oreilles du mari. Il est dans le bureau. La femme avec sa sacoche devant le coffre.
Galien dit à la femme,
« Alors, vous vous souvenez de ça ?»
Elle lui dit, « Mais non, ce n'est pas moi. Je m'en serais souvenu. C'est impossible.
Mais, » « Mais pourtant, c'est bien vous ?»
Elle lui dit,
« Elle me ressemble. Mais ce n'est pas possible. Non. »
Il lui montre la scène où elle parle. Elle lui dit
« Alors ?»
Elle lui dit
« Mais non, c'est impossible. Ce ne peut pas être moi. »
« Eh bien, c'est bien votre voix. »
« Oui, je crois. Je ne sais plus. C'est trop horrible. »
Et il lui montre le crime.
ce que voit le mari et entend pour la dernière fois.
Riquin lui dit : Vous avez compris ce que vous avez vu. C'était ce que voyait votre mari avant de mourir, et que c'est vous qui l'avez tué. Elle se met à hurler.
Non, c'est faux. C'est une machination. Vous êtes tous contre moi. C'est un coup monté. C'est faux, cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous m'en voulez ?
Quelqu'un lui dit, calmez-vous. Nous ne voulons aucun mal. Nous savons que c'est un coup monté. Mais ce n'est pas nous qui avons fait ce coup. Et nous ne savons pas qui est-ce. C'est pour cela que nous nous avons amenés ici. C'est pour le savoir. Nous allons vous faire des électrochocs, radio du cerveau, prise de sang, analyse d'urine, fond de l'œil. Après tous ces examens, nous verrons plus clair. Elle lui dit,
mais je ne suis pas malade, ni folle.
Bien sûr que personne ne le pense. Mais il faut savoir ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Et pour cela, pour nous permettre aussi, peut-être, de punir le coupable.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.